Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, soyez bénis. Nous sommes ce soir en direct sur Radio Réveil, à la fréquence 100 MHz sur Port-Gentil. Donc nous sommes aujourd'hui lundi, je crois que nous sommes le lundi 15 septembre 2025. Et je ne suis pas seul, je suis avec notre frère Narcisse. Bonsoir Narcisse.
Bonsoir Eva, bonsoir chers amis auditeurs de Radio Réveil, sur Port-Gentil.
Comment vas-tu?
Par la grâce de Dieu, je vais bien et le Seigneur a béni mon séjour dans votre localité, dans notre localité, par sa présence. Et vraiment que son nom soit élevé.
Gloire au Seigneur. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Nous sommes contents pour ta présence et nous sommes bénis. Donc, nous sommes là. On se laisse conduire par le Seigneur. On te donne la parole pour pouvoir nous partager ce que le Seigneur t'a mis à cœur.
Ok, merci. Ce soir, c'est un sujet qui souvent... C'est un sujet auquel nous sommes confrontés très souvent dans la marche avec le Seigneur. Ce soir, je voudrais que l'on parle un peu des compagnons d'œuvre, de ce que le Seigneur entend que nous fassions avec ceux et celles qui marchent à nos côtés. Alors, d'abord, la notion de compagnon, qu'est-ce que c'est? Et par la grâce de Dieu, je voudrais vraiment... que ce soir, ça soit un peu plus clair dans notre esprit. Mais avant toute chose, je voudrais recommander ces moments au Seigneur. Voilà, Père, je veux te bénir encore ce soir et te laisser, Seigneur, remplir mon cœur de ta parole par ton Saint-Esprit. Afin, Père, que ce ne soit point par l'intelligence que je parle, mais poussé, Seigneur, par la vertu de ton Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, c'est ta vérité que nous voulons entendre ce soir dans cette radio. C'est ta voix, Père, que nous voulons entendre parce que c'est elle qui parle à nos cœurs et qui éprouve nos reins. Ce soir encore, Seigneur, je me tiens là comme un simple serviteur, un instrument inutile pour que ton nom, Seigneur, soit élevé. Alors je prie, Père, que ta présence remplisse ces lieux, que ta présence remplisse, Seigneur, les maisons des frères et sœurs qui, en ce moment précis, sont câblés sur cette chaîne de radio et qu'ils trouvent, Seigneur, ce soir, des réponses encore aux questions que beaucoup d'entre eux se posent. Père, nous refusons toute forme de raisonnement humain et nous voulons, Père, nous soumettre à la puissance de la vérité, car ta parole seule est la vérité. Amen.
Amen.
Merci Jésus. Alors, ce soir, je voudrais, comme je disais tantôt, que l'on parle des compagnons. Parce que depuis la création du monde, nous voyons que le Seigneur seul n'a pas eu besoin du conseil des hommes ou des anges ou de tout ce qui pouvait exister, car Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe de manière souveraine. La Bible dit qu'il n'a pas besoin de conseils parce qu'il est parfait en toutes choses, il est excellent. Mais en dehors de l'Éternel, les hommes n'ont pas cette faculté. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur, par sa grâce, nous montre déjà cet ange qui vient témoigner à Jean-Baptiste, qui était en pleine extase, qu'il est un compagnon de service. Waouh, c'est magnifique. Ça veut dire qu'à nos côtés, déjà, il y a des êtres invisibles qui nous aident à accomplir des choses, mais tout au long de la journée, à accomplir des exploits, à faire l'œuvre du Seigneur. Et même dans nos tâches quotidiennes, c'est-à-dire ce qui concerne nos aspects matériels sur la terre, le Seigneur a disposé déjà des êtres qui sont là. Alors, nous comprenons ici que la volonté du Seigneur n'est, n'était pas que l'homme soit seul. Et nous allons commencer déjà dans Genèse 2, 18. Nous sommes encore là au commencement de la parole, au commencement plutôt de la création de l'humanité. Et donc dans Genèse 2, il y a cette... ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une anecdote, c'est la vie. Il y a ce fait qui va intervenir. Le Seigneur avait créé l'homme et l'avait laissé dans le jardin pour l'administrer. Et dans Genèse 2, 18, la Bible déclare, « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Alléluia. Déjà, la première chose ici, il est vrai qu'en parlant d'aide, il s'agit de la femme, mais la première chose déjà que le Seigneur nous dit, c'est qu'il n'est pas bon que pour son œuvre, pour faire son œuvre, que nous soyons seuls. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. On ne peut pas gérer l'œuvre du Seigneur seul. La mission que le Seigneur nous a donnée, nous ne pouvons pas être seuls. Et là, il dit, je lui ferai une aide semblable. L'aide semblable, bien entendu, on comprend par la suite. Verset 19, il dit, « Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux des cieux. Et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fût son nom. Et Adam donna toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et ainsi de suite. » Et l'Éternel, verset 21, « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. » Alléluia. Et nous comprenons, nous voyons que ici, le Seigneur donne à Adam une aide, une personne pour l'accompagner. C'est le premier couple de compagnons sur la terre qui devait ensemble administrer la mission que le Seigneur avait donnée à Adam. Gérer le jardin d'Éden. Gérer l'Éden étant les délices, c'est-à-dire gérer cet endroit que le Seigneur, Yahweh, avait créé dans une parfaite harmonie. Et donc... le compagnon est aussi, je vais juste disgracier pour que l'on comprenne que lorsqu'on parle de compagnon et que l'on parle de l'œuvre du Seigneur, dans le cadre du mariage, nous sommes également dans l'œuvre du Seigneur, clairement. Et il s'agit ici du Seigneur qui prend la décision de donner une femme à Adam. Et donc, ça revient aussi à dire que lorsque nous sommes aussi dans nos foyers, comme lorsque nous sommes dans nos foyers, lorsque le Seigneur a choisi pour nous une femme que nous avons reconnue, de même nous devons aussi prendre le soin de reconnaître en ceux qui nous accompagnent la marque du Seigneur, la volonté du Seigneur. Parce qu'on ne choisit pas ses amis pour faire l'œuvre de Dieu. On ne choisit pas ses parents pour faire l'œuvre de Dieu. On fait l'œuvre de Dieu avec ceux que le Seigneur a programmé pour vous accompagner. Sinon, on est confronté à plein d'obstacles, plein de difficultés, plein de blocages, plein de d'inertie. Il est important ici de comprendre que c'est d'abord le Seigneur qui choisit nos coéquipiers, comme il a choisi une femme pour accompagner l'homme dans le ministère où il l'attend. Donc c'est d'abord le choix du Seigneur. Lorsque quelqu'un a une vision, parce que le plus souvent, en parlant d'œuvre, on parle de vision. Lorsque quelqu'un a une vision, eh bien, il reçoit toutes les mesures de cette vision. Il reçoit toute la profondeur de cette vision. Mais celui qui donne la vision, c'est Yahweh, c'est Yahushua. Et donc, celui qui donne la vision sait également ce qu'il veut en retour. Et comme la Bible nous déclare que lorsqu'il envoie, il équipe, alors il équipe aussi en toutes choses, y compris dans les hommes qui doivent vous aider à atteindre l'objectif qu'il attend de votre vision. Dieu est le seul, je disais, qui n'a pas besoin d'aide. Mais nous, les hommes, nous avons besoin de prendre les avis des uns et des autres dans ce que nous faisons. Nous ne pouvons pas foncer tout simplement et dire que lorsqu'on vous ramène à la, dans quelques réglages ou dans quelques recadrages, vous dites non, moi je suis obtus, moi je fonce. Vous foncez par orgueil, mais vous allez vous heurter à un mur parce que la Bible déclare que le trône du roi s'est fermé à cause du grand nombre de conseils. Donc les conseillers qui sont également des hommes de prière comme vous, des femmes de prière comme vous, qui vous accompagnent dans la mission, doivent également vivre et s'adonner à l'aboutissement de la vision. Il faut que vous soyez un même cœur, un seul esprit. C'est pourquoi, pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut que l'on s'accorde. Et je vais prendre, c'est le livre d'Amos, le prophète Amos, au chapitre 3, qui dit, dans le verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ? Si je dois accompagner quelqu'un dans la vision, il faudrait que l'Éternel, Yahweh, que je prie également, me convainc dans mon cœur que je dois faire partie de cette équipe. Il faut que l'on arrête de faire l'œuvre du Seigneur avec la chair. Ça se fait, c'est d'abord une affaire spirituelle. Sinon, on prend des coups, on porte des fardeaux qui ne sont pas les nôtres et puis on s'écroule. Or, si nous sommes conduits par l'Esprit, la Bible déclare que nous n'accomplirons point les œuvres de la chair. Et donc tout ce que nous allons faire dans ce à quoi le Seigneur nous conduit est purement spirituel. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Il faut que la vision, celui qui porte la vision, celui qui est dans l'œuvre, soit clair dans ce qu'il a reçu. Parce qu'il y a des domaines où on a besoin, on n'a pas forcément besoin de certaines choses. On voit par exemple lorsque le Seigneur confie la vision du tabernacle à Moïse. Mais il va lui donner également Betsalil. Mais Betsalil, ce n'est pas Moïse qui l'a repéré, c'est le Seigneur qui l'a rempli de talent d'artisan qui dira à Moïse, tu prendras Betsalil pour faire le tabernacle. Donc le Seigneur dispose les personnes qui conviennent pour voir l'aboutissement du projet ou de l'œuvre qu'il attend de nous, de vous. Dans Exode 4, le livre d'Exode, qui est l'un des livres du Tanakh, qui parle, le livre d'Exode parle de la sortie du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël d'Égypte. Et donc une bonne partie est consacrée à la mission qui avait été donnée à Moïse. Moïse, dans Exode 3, Moïse, on nous raconte comment Moïse, après avoir vu ce buisson ardent qui brûlait, mais ne se consumait pas, avait été troublé par ça et est venu au pied du Seigneur pour demander, mais qu'est-ce que tu veux concrètement? Parce que nous voyons vision... C'était un ensemble, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en ce moment-là entre Moïse et le Seigneur sur cette montagne. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons imaginer. J'invite certains, s'ils peuvent avoir la grâce d'aller visiter ce qui s'est passé, de demander au Seigneur. Mais on voit comment Moïse, troublé par cette vision, va demander au Seigneur, mais que dois-je faire? Avec quelle arme devrais-je aller sortir le peuple d'Israël, Pharaon? Eh bien, sachez que Pharaon était le... Pharaon était un titre de Dieu en Égypte. L'Égypte était la nation la plus puissante de la terre à l'époque. Un peu comme un Gabonais lambda qui dit, bon, moi je m'en vais aux États-Unis. Et puis là-bas, tous les Gabonais qui sont esclaves, ben, je les sors comme ça, là, connaissant la puissance militaire des États-Unis ou de la Chine, par exemple. Vous voyez, c'est insensé. Et c'est la question que Moïse pose. Comment j'irai? Mais avec quoi j'irai délivrer ce peuple? Comment je ferai? Le Seigneur, quand il envoie, il est fidèle. Il ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ça veut dire que lorsque nous recevons une vision, même si nous sommes comme Moïse, mais nous voyons bien que lorsque Moïse repartira, des choses vont se passer. Nous allons d'abord lire Exode 4, à partir du verset 10. Il dit, et Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis point un homme qui ait la parole aisée, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante. » Et l'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Ou qui rend muet, ou sourd, ou voyant, ou aveugle ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Maintenant, donc, va et je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Et Moïse répondit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. » Moïse voulait désister. La peur s'était emparée de lui. Il dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. » Moïse reconnaît sa dimension. Il est tout petit devant le Seigneur. Il dit, « Non, ça c'est trop grand, tes affaires-là. Est-ce que je suis capable ?» Non, vraiment, pour ne pas... pour ne pas t'attrister par ma défaite ou pour ne pas... de décevoir, voilà, merci Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur vous a choisi pour cette noble et grande mission, comme il avait choisi Moïse. Et le verset 14 dit, et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse. Et il dit, Aaron le Lévite n'est-il pas ton frère? Je sais qu'il parlera très bien, et même le voici qui sort à ta rencontre. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Alors ici, on voit que Moïse, par la peur qu'il éprouve de décevoir le Seigneur, ce qui est également une forme de refus, il incite la colère du Seigneur. La Bible dit, la colère du Seigneur, la colère de l'Éternel s'embrasa contre Moïse. Et pour le réconforter, il dit, mais voici, il y a ton frère Aaron qui arrive. Ton frère Aaron arrive, il se réjouira lorsqu'il te verra. Ton frère Aaron arrive, il parlera. Et verset 15, enfin, tu lui parleras donc et tu mettras les paroles dans sa bouche et je serai avec ta bouche et avec la sienne et je vous enseignerai ce que vous devriez faire. Alléluia. Le Seigneur n'abandonne personne dans une vision. Le Seigneur te donne le compagnon qu'il faut dans la vision. Le Seigneur, ici, il dit, je vous parlerai, tu mettras tes paroles dans sa bouche. C'est ici pour marquer la fidélité qu'il y avait dans le message qu'Aaron pouvait diffuser et au peuple et à Pharaon, qui était dans le cœur de Moïse. C'est-à-dire que ce que Moïse recevait lorsque c'était A, il disait à Aaron de dire A. Aaron ne disait pas AB. Il y a une fidélité lorsque nous sommes ensemble dans la vision. Il faut qu'il y ait une fidélité lorsque nous sommes ensemble dans une œuvre. Fidèle l'un à l'autre, fidèle dans les mots, d'abord dans la parole, dans la transmission du message. Fidèle dans ce que nous sommes en train de faire. Transparent. Et l'Éternel dit, c'est moi, lui, c'est l'Éternel qui vous dit, qui enseignera ce que vous deviez faire. Ça veut dire que tout ce que nous faisons avec les compagnons lorsque nous sommes dans l'œuvre du Seigneur, ça doit venir du Seigneur. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous conduit, comme nous le disions au début de cette émission. Il nous conduit par son Saint-Esprit dans toute la vérité. Alléluia. Et donc, après s'être accordé et que nous commençons à marcher ensemble, il est important, il est très important que nous soyons également fidèles les uns aux autres. Amen. Et notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le modèle par excellence, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'il a marché avec les disciples, les pères fondateurs de l'Église primitive, la première, la toute première, Jacques, Pierre, Jean et les autres. Dans Luc 10, le verset 1 et 2, on parle de cette mission que le Seigneur va donner aux disciples. Il lui dit, après cela, le Seigneur établit encore 70 autres disciples. Il établit encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Il envoyait 70 plus les 12. Ça faisait 82. Et les 82 allaient deux à deux dans les villes, dans les maisons, dans tous les lieux où lui-même, c'est-à-dire que la mission, notre mission, nous qui sommes envoyés par le Seigneur, c'est que nous allons là où le Seigneur lui-même y devait aller. Nous sommes en mission, nous allons au nom du Seigneur. Avec des compagnons, parce que la Bible déclare qu'il vaut mieux que vous soyez deux plutôt qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre se trouvera pour le relever. Le Seigneur nous a montré ce modèle par excellence et nous comprenons ici que tout doit venir de là-haut, tout doit venir de lui. C'est lui qui choisit le compagnon qui doit être à nos côtés. Ce ne sont pas nos affinités ou nos sensations. Lorsqu'il s'agit de l'œuvre du Seigneur, c'est le Seigneur qui doit en être le maître. Cela doit aussi susciter la crainte dans notre manière de prendre les responsabilités, même si nous avons reçu quelque chose du Seigneur, mais c'est pour le Seigneur d'abord. Même si c'est ton argent qui permet que tu achètes la voiture qui va transporter tous les compagnons, ça ne fait pas d'eux tes esclaves. Ce sont les esclaves du Seigneur, comme toi. Tu es juste le canal par lequel il a béni pour pouvoir acquérir ce bien. C'est tout, rien d'autre. Tu es juste le canal. Ne pense pas que tu es tellement génial, tellement fort, tellement puissant que voilà, si tu n'es pas là, si tu n'es pas d'accord, il va susciter quelqu'un d'autre. Ah oui, lui aussi, c'est le Dieu du remplacement. Il était prêt, hein? Rappelez-vous, il dit, si vous ne me louez pas, je susciterai des pierres. Donc, il est capable de susciter les pierres sous la forme matérielle. Donc, les pierres, faire parler des pierres, Yahweh, oui. Il est capable parce qu'il nous a tiré de la terre, de la boue. Alors, donc, combien de fois la poussière? Combien de fois ce serait possible pour une pierre? Mais quand il parle aussi des pierres ici, il parle des païens. C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne le connaît pas, si toi tu te montres trop important à tes yeux, il va prendre quelqu'un d'autre et puis donner la vision qu'il t'a remise. Tu perdras là la couronne. Tu perdras l'occasion d'adorer ton Seigneur, de le louer, Donc il faut prendre la vision, la mission du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse, c'est très, 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 très important. C'est très important. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes, Actes 12. Actes 12. On va lire Actes 12, verset 25. C'est l'histoire de Paul et Barnabas. Et Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur ministère, s'en retournaient de Jérusalem, ayant aussi pris avec eux Jean, surnommé Marc. Ils avaient pris Jean, surnommé Marc. Alors, dans Acte 15, au verset 36, dans Acte 12, 25, on a vu que Paul et Barnabas ont pris Marc pour aller avec eux en mission. Donc il devient un compagnon de l'œuvre à laquelle le Seigneur leur a appelé. Et dans Acte 15, donc quelques temps plus tard, après avoir marché ensemble pendant un bon moment, au verset 36, ici, la Bible dit, quelques jours après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Quel état spirituel, bien entendu. Et Barnabas voulait prendre avec lui Jean, surnommé Marc, qui s'agit de la même personne. Au verset 38, la Bible dit, mais il ne semblait pas raisonnable à Paul de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Voyez, en cours de route, il peut souvent arriver que des personnes que le Seigneur a appelées, parce que ce Marc, le Seigneur l'avait bel et bien appelé, hein, c'était un disciple, et seulement, il avait été appelé pour autre chose. Il n'avait pas été appelé à l'œuvre pour laquelle le Seigneur avait appelé Barnabas et Paul. Et donc, malgré qu'il servait certainement le Seigneur avec excellence dans d'autres domaines, on comprend ici dans Acte 12, 25 que là, il y a quand même eu un problème. Il y a eu un problème. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont choisi, sachant que le Seigneur a permis cela, sachant qu'il n'irait pas au bout? C'est pourquoi les moindres détails dans le service du Seigneur doivent toujours demeurer entre les mains du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez ici, Barnabas continue de dire, bon, mais écoutons, prenons Marc, Paul dit non, non. Il ne nous a pas accompagnés en Pamphylie, ni dans le reste des villes où on a fait l'œuvre. Or, nous savons tous que les croisades de Paul et Barnabas étaient des croisades parsemées d'embûches, où parfois ils étaient battus, et parfois même jusqu'à presque à la mort. On a vu le même Paul avec Silas louer le Seigneur, étant emprisonné. Mais alors qu'ils étaient dans la prison, ils louaient le Seigneur. Alors qu'ils étaient battus, ils louaient le Seigneur. Alors qu'ils étaient humiliés, ils louaient le Seigneur. On connaît tout ce qui s'est passé. Les portes de la prison vont être ébranlées. Paul et Silas vont être délivrés par le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Mais pour vivre ces humiliations, pour vivre les difficultés, si la personne qui est à vos côtés n'a pas été appelée par le Seigneur, il ne pourra pas résister. il ne pourra pas résister au fait que là, maintenant, il n'y a plus d'argent. On est à sec, c'est la disette. Parce que l'œuvre du Seigneur, il y a beaucoup de disettes dedans. Tous les jours, ce n'est pas l'abondance. L'œuvre du Seigneur est difficile en cela qu'il est parsemé d'abord de difficultés, d'épreuves. C'est pourquoi beaucoup disent que l'œuvre du Seigneur commence dans le désert. Ce n'est pas tout de suite dans Canaan où coule le lait et le miel. Non, c'est d'abord dans le désert. Mais dans le désert, il y a des oasis. Dans le désert, le Seigneur a prévu des oasis pour vous qui êtes dans la difficulté, qui voulez certainement abandonner l'œuvre aujourd'hui, qui voulez certainement abandonner la vision, qui ne voyez pas comment ça avance. La solution est simple. Mon frère, ma soeur, reconnecte-toi à celui à qui appartient la vision. Si la vision vient de toi, bon, je n'ai pas de solution. Mais si la vision vient du Seigneur, va dans ta chambre, fléchis les genoux et demande au Seigneur, que faut-il que tu fasses? Père, tu m'as demandé de faire ceci. Tu m'as demandé de commencer à construire ce bateau comme Noé, c'est selon. Vous savez, Noé a pris 60 ans pour construire l'arche. Et pendant 60 ans, il interpellait. Il interpellait les gens en disant, attention, le Seigneur n'est pas content de la manière dont nous vivons. Il interpellait la population de sa génération. Noé, il interpellait. À l'époque de Noé, c'est une époque qui ressemble à la nôtre. Une époque où la séduction est forte, où le péché du sexe, la luxure est très 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 forte, où l'alcool, les beuveries sont très fortes. Les excès en tout genre sont très forts. C'est une époque où les gens ne pensaient pas qu'ils rencontreraient le Seigneur bientôt par la mort. Mes frères et sœurs, l'époque actuelle, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, c'est l'époque que nous vivons. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. C'est le temps où, au milieu de toute la séduction, le temps où, au milieu de toutes ces guerres, c'est le temps où, au milieu de toutes les perditions qui mènent l'homme en enfer, le Seigneur suscite, le Seigneur vous a suscité pour porter son œuvre, pour porter sa parole, pour porter une vision, pour parler aux hommes de lui. Soit par des campagnes d'évangélisation, dans les assemblées, par les médias, dans les carrefours, dans les rues. C'est l'époque où le Seigneur interpelle. Il se suscite des Noé. Il se suscite des Noé. Écoutez, lisons dans Genèse 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mon frère, Dieu t'a mis dans une position où tu dois interpeller les membres de ta famille, les membres de ton quartier. Dieu t'a donné certainement, le premier outil qu'il t'a donné, c'est ta bouche. C'est un cœur. Il t'a certainement donné une voiture, il t'a certainement donné une radio comme là où nous sommes aujourd'hui. Il t'a donné une télévision, il t'a donné des réseaux. Il t'a donné une position dans laquelle et par laquelle tu dois interpeller le monde. À cause de ce que la période que nous vivons, c'est une période où le Seigneur se répand d'avoir fait l'homme sur la terre. C'est une période où le cœur de Dieu est affligé à cause de l'homme. C'est une période où la malice de l'homme est grande sur la terre et que l'imagination de nos pensées sont perverses et corrompues. C'est donc une période où nous devons voir pourquoi est-ce que l'œuvre du Seigneur n'est pas encore faite. Alors, je dois faire ma part. Car bientôt, très bientôt, la pluie va tomber. Très bientôt, la pluie va tomber. Très bientôt, il y aura un désastre. Regardez, regardons. La Bible dit que le Seigneur dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Ça veut dire qu'il y a même des dommages collatéraux à cause du péché. Même si toi, tu ne le fais pas, tu ne commets pas le péché. Mais si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, je t'assure que tu seras pris comme le bétail. Le bétail aussi n'avait rien fait à Dieu. Le bétail n'avait rien fait à Dieu, sauf que il a quand même été exterminé. Parce que la terre a été corrompue par le péché de l'homme depuis Adam. Et ce péché s'est transmis de génération en génération jusqu'à la génération de Noé. Et malgré les interpellations, les hommes sont restés sourds. Mais Noé n'a cessé d'interpeller. Jusqu'à la fermeture de la porte. Et quand la porte a été fermée, ce jour-là, c'est comme le jour de l'avènement du Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on en parle dans le monde, on en parle dans tous les médias, on en parle partout, tous les jours. Celui qui a reçu une vision n'a pas tout le temps pour lui. Il n'a le temps que de mettre la vision en place, à la faire exécuter. Ce sont des choses que le Seigneur nous donne pour la gloire de son nom. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de son nom. Alors, où que tu sois, souviens-toi des promesses que l'Éternel a faites, de l'alliance que tu as faite avec l'Éternel. Souviens-toi de l'alliance que tu as faite avec Yahweh. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est pas un homme. Tu peux te cacher des hommes et tu ne te cacheras pas de lui. Parce que nous allons tous rendre des comptes, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. Il est venu sur la terre, il nous a aimés. Et il nous aime encore. C'est pourquoi il nous a envoyé son Esprit Saint. Il a envoyé des gens autour de toi. Toi qui écoutes cette émission, tu es certainement dans un véhicule où tu es assis à ton canapé. Je ne sais pas ce que tu fais, mais le Seigneur a permis que tes oreilles soient branchées là, soient connectées. Écoute-moi bien. Il a permis que des hommes te parlent. Répands-toi. Restaure. Sois restauré au nom de Jésus. Reviens à Jésus si tu l'as déjà connu. Si tu ne le connais pas, que par son esprit, de là où tu es, il te conduise afin que tu rencontres des hommes qui te parleront, seront la vérité de l'évangile. Car Christ, Yeshua HaMashiach, est mort pour toi à la croix. Et son sang a coulé une fois pour te laver de tout péché. Son sang a coulé et que la croix, il a triomphé pour ta vie. Que les ordonnances qui te condamnaient sont désormais anéanties, annulées. C'est fini, ça a été publiquement déchiré à la croix. Jeune homme, jeune fille, monsieur, madame, père et mère, où que vous soyez, écoutez, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Vous vivez sur la terre 50, 60, 70 ans. L'espérance de vie au Gabon est aujourd'hui de 62 ans. Mais il y a la vie éternelle. La vie éternelle. Après cette vie sur la terre, je ne sais si je mourrai avant que le Seigneur ne revienne. Ma prière, c'est d'être enlevé. Mais si je devais mourir pour aller vers le Seigneur, je prie de vivre éternellement avec lui. Et toi comme moi, de là où tu es, prépare-toi pour le retour du Seigneur, premièrement. Mais écoute-moi bien. Tu vivras éternellement si tu choisis de suivre Jésus dans la véritable félicité. Tu vivras éternellement, co-héritier du royaume des cieux. Je ne dis pas de la terre, co-héritier du royaume des cieux. Car il te fera asseoir comme l'épouse. Et tu sais, quand tu regardes dans le monde, l'épouse est toujours assise à côté de l'époux. S'il est le roi des rois, tu seras la reine des reines. Mais nous serons un même esprit. Et comme deux, ils ne sont plus deux, mais un seul, tu seras avec Yeshua, ton roi, ton maître, ton époux merveilleux. C'est le temps de revenir. C'est le temps de revenir à ce que le Seigneur t'a confié. C'est le temps de te consacrer à ce que le Seigneur t'a donné. C'est le temps pour toi de moissonner dans le champ. C'est le temps pour toi d'être à ta place. Oublie toutes les blessures. Oublie toutes les blessures. Oublie ce qui t'a éloigné de la communion fraternelle. Tu étais dans une assemblée. Tu as été blessé par tes frères. Va demander pardon. Et accepte le pardon des autres. Tu n'as jamais entendu parler de Jésus, va dans ta chambre, prie. Il s'appelle Jésus. Dis Jésus, conduis-moi, il te conduira. Il n'y a aucun péché qui te condamne plus que la vie que Jésus t'a donnée. La Bible déclare que là où le péché abonde, l'amour surabonde. Et tes péchés ont été effacés à la croix. Dans le livre de Jean 1, c'est par lui. Nous sommes nés de Dieu. Jean 1, 12 dit, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair ni des hommes, mais par la volonté de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de Yahweh. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, je veux te dire que tout ce que tu as, si tu as ton épouse, c'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te l'a donné, prends-en soin et tous les deux, soyez prospères dans votre mariage au nom de Jésus, dans le ministère qu'il vous a accordé. Si tu as reçu des enfants, béni soit le Seigneur. Occupe-toi comme un père doit s'occuper de ses enfants. Ce que tu as reçu du Seigneur est précieux. Comme on dit souvent, la vie est précieuse. La vie, nous la recevons du Seigneur comme tout autre don précieux, excellent, qui vient du Seigneur. C'était votre frère Narcisse. Je suis arrivé au bout du temps qui m'était imparti. Je vous remercie encore pour votre écoute. De là où vous êtes, soyez bénis. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il vous restaure, qu'il vous fortifie. Qu'il vous remplisse par son Esprit Saint. Et qu'à lui seul revienne l'honneur, la puissance, la gloire, la majesté. En tout temps. Merci Jésus pour ces moments. Que ton nom soit béni. Amen.